Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Ses bienfaits depuis la création du monde, ses bienfaits jusqu'à aujourd'hui, ses bienfaits dans nos vies, ses bienfaits dans l'Église et la grâce qu'il nous fait justement de pouvoir nous rassembler tous ensemble avec lui, devant lui et dans la communion avec sa sainte parole qu'il nous a donnée et que nous voulons ouvrir maintenant. Alors nous allons prier avant d'ouvrir les Écritures. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Toi qui nous as aimés le premier et toi qui es le Dieu de notre salut. Le Dieu de notre salut, le Dieu du pardon, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la nouvelle vie, le Dieu de la grâce, le Dieu de l'adoption, le Dieu qui fait de nous tes enfants. Et pour cela, nous voulons te rendre grâce, te bénir et te louer. Merci Seigneur pour notre salut. Merci d'avoir fait cela pour nous. Merci de nous avoir rachetés. Merci de faire de nous ton peuple, tes enfants, ceux qui t'appartiennent. Nous te glorifions, nous te louons pour cela. Seigneur, merci aussi d'être le Père, un Père qui nous élève, un Père qui nous éduque, un Père qui nous fait grandir, un Père qui nous reprend, un Père qui nous façonne. Et tu le fais, Seigneur, au travers de ta parole, que nous voulons offrir maintenant devant toi, par ton esprit. Alors nous te prions, Seigneur, de venir entourer ces temps de ta présence et de nous permettre de recevoir l'éclairage nécessaire afin de recevoir ta parole dans nos cœurs comme une semence qui porte du fruit, comme une semence qui transforme, comme une semence qui nous fait croître. Seigneur, nous avons besoin de cette semence en nous. Nous avons besoin non seulement de la semence, mais d'avoir des cœurs adéquats, des cœurs disposés, des cœurs propres, Seigneur. Nous te le demandons, afin que ce temps ne soit pas un temps, Seigneur, de discours, que ce ne soit pas un temps de vaines paroles, de vaines discussions, mais que ce soit un temps, Seigneur, où ton esprit, par la parole, fait une œuvre profonde, puissante, dans chacun de nos cœurs. Seigneur, c'est ce que nous te demandons avec vraiment, avec supplication, conscient de notre besoin de ta parole dans nos vies. Amen. Nous allons faire deux lectures aujourd'hui. Deux courtes lectures. La première dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Matthieu 7, 1 à 5, il est écrit: ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. La deuxième lecture, dans l'épître de Jacques, chapitre 4, les versets 11 à 12. Jacques, chapitre 4, versets 11 à 12. Il est écrit: ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Amen. La dernière fois, pour rappel, il y a quelques semaines, nous avions parlé de quelque chose qui impacte énormément notre vie, sans qu'on s'en rende compte nécessairement, de quelque chose qui détermine largement notre vie, c'est notre regard. Et nous avions dit que notre regard sur la vie, notre regard sur les autres, notre regard sur le monde, notre regard détermine nos comportements, nos raisonnements et nos façons d'être. Et nous avions dit que notre regard, notre façon de voir les choses, de voir les autres, de voir la vie, notre regard englobe tout. Et si on prend simplement le plan des relations interpersonnelles, par exemple, notre regard sur les autres englobe tout. Nous allons avoir un regard sur leur habillement, sur leur façon de vivre, sur leurs choix, sur leurs valeurs, sur leur apparence physique, sur leurs décisions. Notre regard est presque jamais neutre. Ça veut dire qu'il est très rare que nous ne pensions rien. Vous connaissez une chose ou une personne dont vous ne pensez rien. Je ne pense rien. En général, nous pensons toujours quelque chose du monde, des autres, de ce que nous voyons, positivement, négativement. Et cela, c'est sur tout ce que nous voyons, nous avons un regard particulier. Nous avions dit que notre regard détermine notre vie. Si notre regard est malade, notre vie sera malade. Mais si notre regard est en bonne santé, si nous avons une bonne façon de regarder les autres, de regarder la vie, de regarder le monde, alors notre vie tout entière sera en bonne santé. Nous avions parlé des différents types de regards qui existent, notamment le regard d'indifférence, le regard de mépris, le regard dur, différents types de regards que nous pouvons porter sur les autres. Et nous avions parlé surtout du regard de Jésus, rappelez-vous. Le regard de Jésus. Notamment dans l'Écriture, on trouve le regard d'amour et de tendresse de Jésus. Quand on parle du jeune homme riche, où il est dit « Jésus le regarda avec amour ». Jésus le regarda avec tendresse. Jésus a un regard d'amour et de tendresse sur les uns et les autres. Nous avions parlé également du regard de compassion. Tous ces moments où on nous dit que Jésus regarde la foule et est ému de compassion. Nous avions parlé, si vous vous rappelez aussi, du regard de remise en question. C'est ce regard que nous trouvons dans l'Évangile au moment où Pierre, qui a affirmé que jamais il ne trahirait Jésus, Pierre entend qu'il vient encore une fois de trahir Jésus et puis il entend le coq chanter. Donc il dit, je ne le connais pas, je ne connais pas Jésus. Ensuite, le coq chante et il nous est dit qu'au loin, Jésus se retourne et regarde Pierre. Regard qui veut dire, eh bien oui, tu l'as fait. Malgré tout ce que tu disais, malgré toutes tes prétentions, tu l'as fait, tu m'as bien renié. Et il nous dit qu'après, Pierre pleura amèrement son péché. Donc Jésus a aussi un regard de remise en question, un regard d'amour, de compassion, mais aussi un regard de remise en question, un regard pour nous faire dire « Eh oh, réveille-toi !» Et nous avions dit aussi qu'il y a le regard de colère de Jésus, notamment à un moment donné où il est dit que Jésus regarda avec colère l'assemblée parce que les personnes qui étaient là étaient en train de prétendre et de faire des choses qui étaient incorrectes devant Dieu. Et nous avions dit, rappelez-vous, que pour un chrétien, la norme du regard, c'est le regard que Jésus a posé sur nous. C'est le regard que Dieu a posé sur nous en Jésus-Christ. Ça, c'est la norme de la vie d'un chrétien. Notre regard doit être le même regard que le regard que Dieu a posé sur nous en Jésus-Christ. Et le regard que Dieu a posé sur nous en Jésus-Christ, c'est un regard de grâce et de miséricorde. En Jésus, Dieu nous a regardés avec grâce et avec miséricorde. En Jésus, Dieu ne nous a pas regardés avec un regard qui condamne, qui rejette, qui méprise, mais Dieu nous a regardés avec grâce et miséricorde. Et ce regard de Dieu sur nous en Jésus-Christ doit être la norme de comment nous regardons les autres. Nous devons regarder les autres avec amour et miséricorde comme Dieu nous a vus en Jésus-Christ. Et pour cela, rappelez-vous, nous avions dit que pour pouvoir regarder les autres de cette façon-là, pour pouvoir adopter ce regard de grâce et de miséricorde de Dieu, eh bien, il faut que nous puissions convertir notre regard. Nous devons nettoyer notre regard, nous devons avoir un nouveau regard, n'est-ce pas ? Sauf vous, n'est-ce pas, qui êtes parfait, déjà sanctifié, déjà presque au ciel. Mais nous autres, nous devons faire ce travail sur notre regard, pour que notre regard soit nettoyé de toutes ces saletés, de toute cette méchanceté, de toutes ces duretés que nous donnons aux autres. Et pour que notre regard soit nettoyé, il faut que notre cœur soit nettoyé. Pour que je puisse regarder les autres avec grâce et miséricorde, il faut que mon cœur soit nettoyé, puisque Jésus nous dit que la méchanceté vient du cœur de l'homme. D'où vient la méchanceté, les adultères, les mauvaises pensées ? Ça vient d'où ? Le cœur de l'homme. Et donc, si je veux bien regarder les autres avec grâce et miséricorde, eh bien, je dois demander à Dieu de transformer mon cœur pour que mon cœur soit imprégné de la grâce, de la miséricorde, et je pourrai donc voir les autres avec grâce et miséricorde. Nous avons besoin d'être nettoyés dans notre cœur, renouvelés dans notre intelligence pour voir et regarder comme Dieu regarde en Jésus-Christ. Et nous avions dit qu'il y a trois éléments pour cela. Le premier élément, c'est avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons être transformés pour avoir dans nos cœurs les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il y a deuxièmement, devenir doux et humble de cœur comme Jésus-Christ. Et il y a revêtir les entrailles de Jésus. Ainsi qu'il est écrit, revêtez-vous d'entrailles, d'amour, de miséricorde, de patience, de douceur. Nous devons vivre tout cela dans nos cœurs pour pouvoir regarder notre prochain, notre voisin, notre frère, comme Dieu regarde en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder un peu plus sur le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Et la Bible nous parle du regard de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais une première chose que l'on peut dire sur le regard de Dieu, c'est que la Bible nous montre que le regard de Dieu s'étend sur toute l'humanité et que Dieu a un regard sur toute l'humanité et qu'il est le juge de tous les humains. Dieu regarde toute l'humanité de son trône de gloire. Il regarde et il voit toute l'humanité. Et il juge les humains. Dans le psaume 11, il est dit par exemple, « L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. » L'Éternel, de son ciel de gloire, regarde le monde. Il sonde le cœur du juste, il voit le cœur du méchant. Ne nous y trompons pas. Dieu nous voit. Dieu nous regarde de son trône de gloire. Et Dieu abaisse son regard du haut du ciel vers la terre. Dans un autre psaume, le psaume 113, il est dit que Dieu abaisse son regard sur les cieux et sur la terre, et de la poussière, il retire le pauvre, et du fumier, il retire l'indigent. Donc avec son regard, Dieu voit le méchant, et il juge le méchant, mais avec son regard, Dieu voit aussi le pauvre, l'indigent, celui qui a besoin de grâce, et il est dit que Dieu baisse son regard, et il retire le pauvre de la poussière, et du fumier, il retire l'indigent. Il voit le petit malheureux, et il le sauve de son trône de gloire. La Bible nous dit que le regard de Dieu est particulièrement posé sur ceux qui se confient en lui. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Dieu parcourt toute la terre du regard pour faire quoi ? Pour soutenir ceux qui sont tournés vers lui sans partage. Il voit le monde entier, mais en particulier, il pose son regard sur celui qui est attaché à lui sans partage. La Bible nous dit que le regard de Dieu abaisse les orgueilleux. Et nous voyons dans l'Écriture, quand on lit bien, que Dieu pose aussi un regard sur toute chose, un regard positif ou un regard négatif. Prenons simplement l'exemple de l'offrande de Caïn et Abel. Nous voyons que Dieu va poser un regard favorable sur l'offrande d'Abel, et un regard défavorable sur l'offrande de Caïn. Dieu regarde et Dieu apprécie le monde. Dieu est sur son trône et il juge et il voit toutes choses. La Bible nous dit que Dieu est le juste juge. On l'appelle le juge de toute la terre. Cependant, et c'est là que le texte de Jacques nous amène, lorsqu'on comprend et lorsqu'on découvre que Dieu est le juste juge de la terre, on comprend aussi qu'aucun homme ne peut se donner le droit d'utiliser des compétences de Dieu de juger. Il est le juste juge, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un qui est assis sur son trône, il n'y en a qu'un qui a le droit d'avoir un regard sur les autres, sur le monde, et de juger. Ne parlez point en mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? On ne s'en rend pas compte, peut-être qu'on ne le visualise pas comme ça, mais juger les autres, condamner les autres, c'est littéralement prendre la place de Dieu. Lorsque tu juges quelqu'un, lorsque tu juges ton prochain, lorsque tu condamnes ton prochain, tu te mets en position d'être sur le trône de Dieu lui-même. Donc lorsque je juge mon prochain, c'est comme si j'arrivais devant le trône de Dieu, j'attrapais Dieu, je l'enlève de son trône et je me mets à sa place, en m'arrogeant le droit de juger mon prochain, de condamner mon prochain. Je prends la place de Dieu pour condamner les autres. J'arrache à Dieu sa prérogative et je me donne le droit de juger les autres. C'est de la folie, non ? Vous ne jugez jamais les autres, donc ça va. Mais pour ceux qui jugent les autres, on se dit, mais c'est de la folie. Chaque fois que je condamne mon prochain, chaque fois que je condamne mon voisin, chaque fois que je condamne mon frère dans l'église, j'enlève Dieu de son trône et je me fais Dieu moi-même pour estimer que moi je peux dire qui est qui, que moi je peux dire qui vaut quoi. Lorsque je décrète, par exemple, lorsque je dis que quelqu'un est hypocrite, oui, celui-là, c'est un hypocrite. Je prends la place de Dieu, je prends le pouvoir de Dieu et je dis, moi, je peux lire dans son cœur et donc j'ai le droit de dire que c'est un hypocrite parce que je sais lire dans les cœurs comme Dieu. Lorsque je dis de quelqu'un, oh, de toute façon, lui, il ne mérite pas la vie qu'il a. T'as vu ça, la belle vie qu'il a? Il y a une belle villa quatre façades. Il a une belle femme, il ne mérite pas, c'est un mauvais. Quand je dis ça, je prends la place de Dieu. Lorsque je dis que quelqu'un n'est pas sérieux, lorsque je dis que quelqu'un n'est pas un vrai chrétien, lorsque je dis que quelqu'un n'est pas beau, lorsque je dis que quelqu'un n'est pas digne de servir Dieu, lorsque je dis toutes ces choses-là, je prends littéralement la place de Dieu. Donc je suis Dieu. Le temps d'une parole, le temps d'un jugement, le temps d'une pensée, je suis Dieu. Et cela veut dire que notre façon de voir les autres dépend beaucoup de comment nous nous voyons nous-mêmes. En réalité, notre façon de voir les autres dépend énormément de comment nous nous voyons nous-mêmes. Au plus nous nous voyons nous-mêmes comme grands, au plus nous nous donnons de l'importance à nous-mêmes, au plus nous allons nous donner le droit de juger et de condamner les autres. Et rappelez-vous que la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur le fameux texte connu même des non-croyants de Jean 8 et de cette femme adultère. Et rappelez-vous un petit peu qu'ils viennent, ils amènent cette femme et puis ils expliquent qu'elle mérite quelque chose, elle mérite que Jésus se baisse au sol. Il écrit et puis il dit bah, « Ok, que celui d'entre vous qui a la première pierre le fasse ». Et finalement, il nous est dit qu'ils partent les uns après les autres et que Jésus reste là, seul avec cette femme. Et il lui dit, « Femme, personne ne t'a-t-il condamné ?»« Non, Seigneur. » Vous voyez que dans ce texte-là, il y a toute une discussion. Vous connaissez cette discussion millénaire sur pourquoi est-ce que Jésus ne la condamne pas, puisqu'il n'y a pas de mari avec elle, on pourrait pérégriner longtemps. Mais une chose sur laquelle on peut s'arrêter, c'est que dans ce texte, Jésus n'est pas en train de changer la loi. Et Jésus n'est certainement pas en train de dire qu'elle ne mérite pas la condamnation. Jésus n'est pas en train de vouloir changer la Bible, de changer les principes de Dieu. Il est en train, lorsqu'il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, il est en train de renvoyer chacun à comment il se regarde lui-même. En d'autres termes, Jésus n'est pas en train de changer la loi, il n'est pas en train de dédouaner cette femme. Il invite tous ceux qui sont là en train de la condamner à changer leur regard sur eux-mêmes, à changer leur façon de se voir eux-mêmes. Il les invite à changer leur regard. Alors que ces gens-là se voient comme étant parfaits, comme étant dignes, comme ayant le droit de juger, Jésus les invite à changer leur façon de se voir eux-mêmes, de se regarder eux-mêmes, de se considérer eux-mêmes. Et une fois qu'ils vont écouter la parole de Jésus et qu'ils vont changer leur façon de se voir eux-mêmes, eh bien, ils vont pouvoir changer leur façon de voir cette femme. Et une fois que leur regard sur cette femme aura changé, ils vont pouvoir tous fuir les uns après les autres. C'est comme s'il leur disait, c'est comme s'il les invitait à réfléchir et qu'il leur disait « Arrêtez de vous voir comme si vous étiez parfait, arrêtez de croire que vous êtes supérieur à cette personne-là et regardez bien en vos consciences si vous ne méritez pas le même châtiment. Arrêtez de penser que vos vies sont plus pures que la sienne, regardez en vous-même, regardez un petit peu dans votre cœur si vous ne méritez pas au moins le même châtiment qu'elle. Arrêtez d'avoir une haute opinion de vous-même, arrêtez de vous croire pour les grands législateurs, arrêtez de vous croire pour Dieu. Et voyez-vous comme ce que vous êtes vraiment, de pauvres hommes, comme elle. Arrêtez de vous donner le pouvoir, l'autorité, la responsabilité d'évaluer, de juger les autres. Arrêtez de l'enfermer dans son péché. Oui, c'est sûr qu'elle mérite le châtiment, mais de la même façon que vous avez besoin de la miséricorde de Dieu, elle aussi en a besoin. Et la même miséricorde dont vous avez besoin pour vos péchés, eh bien, elle aussi, elle en a besoin. Et comme vous, vous avez besoin de miséricorde, vous pouvez aussi la regarder avec miséricorde. Toi, tu as besoin du sang de Jésus pour laver tes péchés? Oui, eh bien les autres aussi. Toi, tu pleures devant Dieu pour tes fautes et tes péchés? Oui, eh bien les autres aussi. Et si tu sais que tu as besoin du pardon, eh bien tu peux regarder les autres avec ce cœur de grâce et de miséricorde. Il les invite à changer leur regard sur eux-mêmes, à changer leur façon de voir, pour voir finalement qu'ils n'ont pas ce droit, qu'ils n'ont pas cette autorité, qu'ils n'ont pas ce pouvoir. Et pour la regarder différemment, et pour accepter que finalement ils sont totalement discrédités pour cette fonction-là. Alors vous l'avez déjà entendu des milliards de fois, j'imagine, mais c'est important de le rappeler. Vous savez que dans le texte de Jean 8, il est clairement écrit qu'au moment où la foule s'en va, ce sont les plus âgés qui partent les premiers, et puis les plus jeunes qui partent en dernier. Vous l'avez lu. Vous connaissez aussi l'explication. Si, si, si. L'explication, qui est une hypothèse, mais qui est une hypothèse qui tient la route, n'est-ce pas, Dame Rose? C'est que les plus âgés, ils ont beaucoup plus conscience de tous leurs péchés. Ils ont toute une vie de péché derrière eux. Alors les plus jeunes, ils sont encore you-you, ils sont, voilà. Mais les plus âgés, quand ils regardent leur vie, il leur faut pas très longtemps pour se dire « Oh, yo, 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 je ne suis vraiment pas digne. » Alors que les plus jeunes ont une plus courte vie, ils n'ont pas encore fait toutes les erreurs des autres. Donc c'est l'hypothèse la plus vraisemblable de pourquoi ce sont les plus âgés qui partent les premiers. Certainement aussi que, comme ils sont conscients de leurs péchés, ils sont naturellement plus compatissants. Mais c'est souvent comme ça, hein. Vous savez bien, les petits jeunes chrétiens, souvent, ils sont tendus. Ils lapideraient tout le monde. Vous n'avez jamais remarqué ça? Pas ici, hein, dans les autres églises, je parle. Mais les plus âgés, comme Francis, il va dire, oh ben, c'est pas grave, hein. Il faut pardonner, hein. Mais les plus jeunes, souvent, sont désexcités. C'est une hypothèse, hein. C'est pas toujours vrai. Il les invite à se regarder différemment. Nous avons aussi un autre texte dans la Bible que vous connaissez bien, qui nous parle de ce changement de regard auquel Jésus invite les uns et les autres. C'est ce fameux texte, c'est finalement cette parabole, parce que en fait c'est une parabole, mais qui est tellement vraisemblable qu'on pourrait penser que c'est une histoire vraie, mais c'est une parabole. La parabole du pharisien et du péager. Et donc, ce sont deux hommes qui montent au temple, le pharisien et le péager. Le pharisien monte au temple, il est debout et il dit « Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiert. Mais le péager, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux du ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit justifié dans sa maison, plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Et dans ce texte encore, nous avons encore le même fonctionnement. Comment est-ce que je me regarde? Et comment est-ce que ma façon de me regarder impacte ce que je pense des autres? Le pharisien, il se voit comme grand. Il se voit comme parfait. Il se prend comme excellent devant Dieu. Il se croit comme juste, il se pense juste. Et parce qu'il se pense juste, il se donne le pouvoir de juger les autres et de juger le péager. Il a un sentiment d'orgueil, il se voit lui-même comme extraordinaire dans sa piété. Et donc, ça le conduit à avoir un sentiment de se dire qu'il peut juger les autres. Alors que le péager, lui, il s'occupe pas des autres. Il voit sa propre vie, son propre péché, et il demande la grâce de Dieu. Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme ce grand pharisien parfait qui fait tout parfaitement et qui peut juger les autres? Ou est-ce que tu te vois dans la réalité de ce que tu es, de la grâce, de la miséricorde dont tu as besoin et dont Dieu t'appelle et que Dieu t'appelle à donner aux autres? Notre façon de nous regarder détermine comment nous regardons les autres. Nous avons lu aussi Matthieu 7, 1 à 5. Et là, le texte est explicite, vous le connaissez très bien. Là encore, Jésus nous montre comment Dieu nous juge. Il nous juge comme nous jugeons les autres. Ne soyez pas jugés, ne jugez pas afin de ne point être jugés. Plus notre regard sur les autres est jugeant, plus notre regard sur les autres est condamnant, plus notre regard sur les autres est un regard qui les éloigne, qui les écrase, plus Dieu aussi nous regardera avec dureté. Au plus nous serons durs avec les fautes des autres, au plus Dieu sera dur avec nos fautes à nous. Ce sont des choses difficiles à accepter, mais c'est la réalité de ce texte-là. Si je juge durement, je serai jugé durement, mais nous avons le même principe pour le pardon. À plusieurs reprises, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La façon dont je regarde les autres va impacter comment Dieu va me regarder. Où il est dit aussi dans les Béatitudes, rappelez-vous, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Celui qui est miséricordieux, celui qui regarde avec miséricorde, eh bien, il peut recevoir aussi la miséricorde. Alors, il est important de dire, c'est important, je sais que vous le savez parce que vous connaissez toute la Bible et tout ce qu'il y a à en dire, mais il faut quand même le rappeler, c'est que quand Jésus dit « ne jugez point », la phrase doit pouvoir dire « ne vous imposez pas comme juge d'autrui ». Ne vous imposez pas comme juge d'autrui. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle le jugement condamnation. On parle ici non pas du fait de juger, d'avoir une opinion sur les choses, on parle ici d'avoir un regard qui condamne les autres. On parle ici d'avoir un regard surplombant, un regard du juge, un regard de celui qui est au-dessus et qui condamne, qui étiquette, qui catégorise les autres. Ne vous prenez pas pour les juges de votre prochain. Ne vous prenez pas pour les juges de vos frères. Prenez-vous comme des égaux de vos frères, comme des égaux de votre prochain. Jésus n'est pas en train de dire que nous ne devons pas avoir de jugement, parce qu'en fait, le jugement, vous savez que c'est une caractéristique de notre raison. Notre raison juge. Nous jugeons en permanence. Nous jugeons tout. Nous jugeons quand, dans la vie, à tout instant, toute seconde, nous jugeons. Quand, par exemple, vous êtes en train de vous dire qu'il fait chaud. C'est ça que vous vous dites depuis tout à l'heure. Il fait chaud. Mais c'est un jugement. Quand vous dites « Ah, mon collègue, là, sa blague n'est pas marrante », c'est un jugement, vous évaluez. C'est marrant ou c'est pas marrant. Quand vous dites « Oh là là, cet homme politique a eu une idée extraordinaire », c'est un jugement. Ou quand vous dites « Oh, cette maison a une drôle de forme », c'est un jugement. Quand je dis qu'Anne-Marie a une belle blouse aujourd'hui, c'est un jugement positif. C'est un jugement. Tout ça, ce sont des jugements. Donc Jésus n'est pas en train de nous dire que nous ne devons pas juger, apprécier les choses. Il est en train de dire que nous ne devons pas nous poser comme ceux qui condamnent. Jésus n'est pas en train non plus de parler du jugement discernement. Puisque vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs reprises et nous sommes invités à avoir ce jugement-là, le jugement discernement. D'ailleurs, vous irez voir que dans Matthieu 7, au verset 15, Jésus parle notamment du discernement à avoir par rapport aux faux prophètes, par rapport auxquels il nous a dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Et là, nous sommes invités à avoir un jugement. Nous sommes invités, là, à discerner. Donc Jésus ne parle pas de ça. Il parle spécifiquement du jugement qui consiste à condamner les autres. À plusieurs reprises, c'est aussi repris dans Romains, nous sommes invités à ne pas juger autrui. Dans Romains, il est dit « Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui ?» S'il tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Qui es-tu pour juger autrui ? Qui es-tu pour juger celui qui sert Dieu ? Qui es-tu pour juger celui qui appartient à Dieu ? Il a déjà son juge, il a déjà son père, il a déjà son maître. Et dans Matthieu 7, vous savez que Jésus parle de quelque chose de très particulier. Il traite ceux qui ont tendance à juger les autres, à condamner les autres. Il les traite d'hypocrites. Il dit hypocrites parce qu'en fait, ces gens-là qui condamnent les autres, en même temps qu'ils condamnent et qu'ils jugent les autres, ils sont aveuglés sur leur propre situation. Ils ont une poutre dans l'œil qui les empêche de voir clair. Et avec cette poutre dans l'œil, ils pensent qu'ils peuvent retirer les sciures, les pailles dans les yeux des autres. Donc ils sont aveugles de leur propre faute, aveugles de leur propre péché, mais ils se sentent qualifiés pour juger les fautes et les péchés des autres. Et donc Jésus dit, occupe-toi d'abord de ta poutre. Et ensuite, tu pourras délicatement et avec amour enlever la sciure, la paille dans l'œil de l'autre. En fait, il est en train de dire, c'est une exhortation même à aider les autres, enlever la sciure avec amour, avec tendresse, aider l'autre par rapport à son défaut. Mais commence d'abord par enlever la poutre de ton œil. Et commence d'abord par voir tes propres péchés, tes propres fautes. Et ensuite, tu verras que tu seras beaucoup plus clair pour aider les autres. Et ça, c'est une règle qui marche toujours. Les gens qui sont humbles, les gens qui sont conscients de leur indignité, de leur faiblesse, les gens qui ne se prennent pas pour Dieu, les gens qui ne jugent pas les autres, ces gens-là savent aider les autres. Vous connaissez des gens jugeants qui aident les autres, vous ? Vous en connaissez ? Vous connaissez quelqu'un qui juge tout le monde et qu'on aime bien, par qui on aime bien être aidé ? C'est très rare, n'est-ce pas ? Vous aimeriez bien, vous, que quelqu'un de jugeant vienne vous aider ? Il va vous dire, allez, viens, Viens, je vais te sortir de ton trou. Donne-moi la main. Et puis avec son pied, il va t'enfoncer dedans. Mais les gens vraiment humbles, les gens qui ont conscience de leur poutre et qui l'ont enlevée, alors eux, ils peuvent aider les autres parce qu'ils sont conscients de leur propre faute. La condamnation consiste à porter des jugements définitifs sur les autres, à catégoriser les autres. Tu es ceci, tu n'es pas digne de cela, tu es un menteur, tu es un voleur. À associer les autres à leurs défauts, alors que la grâce nous amène à voir les autres avec miséricorde. Alors évidemment, ne nous la faites pas, n'est-ce pas ? Elle est millénaire aussi. Ne venez pas dire en constamment qu'on vous juge. Parce que ça c'est chez les chrétiens. Tu connais ça, Guy, toi ? Tu connais les gens ? Ils sont toujours jugés. Oh, mais on me juge ! Dans l'église, on me juge. Quel que soit ce qu'on peut dire, ouais, mais on me juge. C'est pas de ça que la Bible parle. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, qu'on a parlé pendant des dimanches et des dimanches de la discipline dans l'église, du fait de reprendre son frère, d'avertir son frère qui a péché. C'est pas de ça qu'on parle. On parle ici de l'attitude jugeante et condamnante par rapport aux autres. Mais en même temps, dans la Bible, nous avons autre chose, c'est la responsabilité. Ça, c'est autre chose. Quand on reprend son frère, on n'est pas dans le jugement, on est dans la responsabilité. Je suis responsable de mon frère. Je suis responsable de l'aider, de le soutenir, de voir où il va, d'être à ses côtés. Quand on condamne, on n'est pas là-dedans. Quand on condamne, on est juste là pour catégoriser les autres, pour les envoyer en enfer. Voilà, c'est ce que tu mérites. Quand on reprend, on le fait avec un cœur de douceur, un cœur de grâce et un cœur de compassion. Donc ne venez pas dans 2 semaines dire « on me juge ». C'est pas de ça que Jésus parle. Nous sommes appelés, pour pouvoir bien regarder les autres, à apprendre à nous regarder. Comme Benoît le disait il y a quelques semaines, à nous regarder avec humilité, avec grâce. Et pourquoi est-ce que c'est important, vous qui avez chaud et qui ne rêvez que d'une chose, c'est de sortir de cette pièce ? De toute façon, vous avez tout dit quelque chose. En hiver, vous avez froid. En été, vous avez trop chaud. Les autres dimanches, vous avez faim. Quand vous n'avez pas faim, vous n'avez pas les mouches. Quand ce n'est pas les mouches, vous avez toujours quelque chose. Donc je ne m'occupe plus de savoir si vous êtes fatigué, je ne m'en occupe pas, parce que vous avez toujours une excuse de toute façon. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que Jésus veut rejoindre ce monde au travers de notre regard. Jésus veut rejoindre ce monde au travers de nous. C'est au travers de nous que Jésus veut aimer notre prochain, notre voisin. C'est au travers de nous que Jésus veut rencontrer les hommes perdus dans ce monde. C'est au travers de nous que Jésus veut sauver, veut faire connaître la grâce de Dieu. C'est au travers de nous que Jésus veut faire connaître l'amour de Dieu. Jésus veut rejoindre ce monde au travers de notre regard. Regard de tendresse, regard de bienveillance, regard d'amour. Jésus veut rejoindre ce monde dur et méchant au travers de toi, de ton regard, de ta façon de voir et d'être. Et donc c'est important que notre regard soit converti. Parce que tant que notre regard est un regard dur, méchant, jugeant, nous sommes incapables de manifester l'amour de Dieu aux autres, nous sommes incapables d'aider les autres, nous sommes incapables d'être les ambassadeurs de Christ pour ce monde. Alors nous devons, et c'est urgent, que nous prions pour nos cœurs, pour nos regards, pour avoir une vraie purification. Et comme cela, nous pouvons regarder les autres comme il faut. Comment est-ce que je regarde ce drogué dans la rue ? Comment est-ce que je regarde ce collègue que tout le monde déteste ? Comment est-ce que je regarde ce frère qui ne va pas bien ? Comment est-ce que je regarde mon conjoint et tous ses défauts ? Comment est-ce que je regarde les autres ? Et est-ce que le regard que j'ai permet que Dieu se fasse connaître aux autres. Il est certain que si notre regard est juste un regard dur et méchant, ce ne sera pas possible. Mais il y a une force et une puissance dans un regard d'amour et de miséricorde. Parce que ce monde en a besoin. Ce monde où on est jugé, où on est attaqué, c'est un monde qui est sensible et qui a besoin de cet amour. Pas juste de la bienveillance humaniste, de dire « ça va, t'as bien dormi », mais du vrai regard d'amour et de miséricorde qui vient de Jésus lui-même. Amen. Seigneur, nous te prions encore une fois pour notre regard. Nous voulons, Seigneur, te demander de faire ton travail dans nos cœurs pour que nous puissions avoir un cœur qui regarde avec grâce, qui regarde avec miséricorde, qui regarde avec tendresse. Un regard, un cœur, Seigneur, qui ne s'impose pas comme juge des autres, mais comme frère, comme égal, comme soutien, comme encouragement pour les autres. Nous prions, Seigneur Dieu, parce que nous savons que cela est essentiel dans ton plan, dans ta parole. Nous prions, Seigneur, nous prions semaine après semaine pour que des cœurs de non-croyants viennent à toi. Nous te supplions pour que dans cette commune de Jumet, des personnes soient libérées de leurs péchés, de leurs fautes, pour que dans Charleroi, qu'en Belgique, que dans le monde, des hommes se tournent vers toi pour être sauvés. Alors pour pouvoir, Seigneur, faire ce travail d'évangélisation et d'accueil de toutes ces personnes, nous avons besoin d'avoir un cœur et un regard converti et nettoyé. Aide-nous tous, Seigneur, chacun d'entre nous dans cette pièce, à pouvoir vraiment être touchés dans notre cœur, dans notre regard, pour que nos vies, Seigneur, puissent être des vies au travers desquelles tu puisses agir, des vies au travers desquelles tu puisses rejoindre ce monde. Te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.